de l'homme où nous étudions l'Épître aux Hébreux. Je ferai cette conclusion ce soir. Et le Seigneur m'a montré que, en fait de conclusion, je ne ferai que relire ces 22 versets du chapitre 11 en m'arrêtant là où l'Esprit voudra que nous nous arrêtions quelques instants. Donc, Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 22e. Il est peut-être bon de lire déjà depuis le verset 38e du chapitre précédent. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, il est clair, d'après ce texte, que qui n'avance pas, recule. Bravo. Alors, mettez-vous cela dans le cœur. Qui n'avance pas, recule. Le salut, il est toujours devant vous. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous marchons donc de foi en foi. Sauvés par la foi, lisons-nous dans Romains 1, versets 16 et 17, et pour la foi, afin de vivre une vie de foi, selon ce merveilleux texte de la prophétie d'Habacuc. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et nous faisions remarquer que dans ce texte, nous n'avions pas exactement une définition de ce qu'est la foi, mais plutôt un des caractères de la foi, ce qui caractérise la foi. Parce que le mot foi a différents sens dans l'écriture, et ce sens est déterminé par le contexte. Et hier soir même, nous vous avons donné quelques-uns de ces sens que peut prendre le mot foi. En particulier, je le rappelle, il peut désigner l'ensemble des vérités du christianisme, ce que le Seigneur nous a révélé pour notre bonheur suprême. Vous avez cela dans Jude, au verset 3 de son unique chapitre. C'est la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. C'est ce qui est appelé dans la première épître à Timothée le bon dépôt que nous avons à garder. Donc les vérités essentielles du christianisme. C'est cela la foi qui a été enseignée au sein une fois pour toutes. Il n'y a donc rien à ajouter à ce que la révélation biblique nous a communiqué, et il n'y a rien à retrancher. Tu n'ajouteras pas à mes paroles et tu ne retrancheras pas. Tout nous a été donné dans cette révélation. Et alors, cette foi qui est une assurance ferme de ce qu'on espère, cette conviction ou cette démonstration, mais une conviction, ce n'est pas une simple opinion, ce n'est pas une simple croyance, c'est beaucoup plus ça. C'est la conviction par le Saint-Esprit que ce qu'on ne voit pas est pourtant réel. plus réel que ce que l'on voit. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Qui sont ces anciens? Ce sont tous ceux qui occupent les pages de l'Ancien Testament et dont nous pouvons apprendre la vie qu'ils ont eue. Et ceux qui ont eu cette foi, qui l'ont possédée, ils ont obtenu un témoignage favorable. Et nous allons voir quelques-uns de ces hommes qui ont obtenu, à cause de leur foi, un témoignage favorable. Et tout de suite, au verset 3, nous apprenons que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Mais vous savez très bien que les savants remontent dans leur raisonnement des faits à des causes et n'arrivent point à la grande cause première. Et ainsi, plusieurs concluent que le monde a toujours existé parce que ils ne peuvent pas admettre que les choses qui se voient proviennent du néant, que Dieu aurait tiré tout cela du néant. Et c'est pourtant bien ce qui est la réalité. Dieu, parce que nous croyons en lui et à sa toute puissance, a tiré du néant tout ce que nous voyons. Ces choses visibles proviennent des choses invisibles. Et c'est pourquoi on a pu appeler la foi un sixième sens. Le sens de l'invisible. Par nos sens, nous avons une relation avec le monde. Mais pour que ma vue et mon ouïe servent, qu'est-ce qu'il faut? La lumière et les sons. S'il n'y a pas de lumière et s'il n'y a pas de son, eh bien, ces sens-là n'ont pas d'utilité. De même, pour qu'il y ait foi, ce sens de l'invisible, il faut que l'invisible existe. La foi, c'est comme un vase vide qui n'attend qu'à être rempli. Alors, par la foi, donc, non pas par nos raisonnements, on n'arrive à rien par nos raisonnements, mais par la foi, nous croyons à la création du monde, par la parole de Dieu. Alors, voyez tout de suite, la création du monde est mentionnée et nous avons une réponse à cette question. D'où vient le monde? Il est sorti des mains du Créateur. Le monde n'est pas éternel, il ne s'est pas fait tout seul, il y a une intelligence supérieure qui a créé toute chose. Voilà la réponse de la Bible. Et il n'y a pas d'explication. Au commencement, Dieu. On n'explique pas Dieu, on l'adore. On se soumet et l'on croit. Et l'on croit que sa parole est toute puissante, que sa parole et créatrice. Donc, vous avez foi dans la création et foi dans la parole qui a tout créé. Et ensuite, vous avez immédiatement, après la vérité de la création, le développement des vérités concernant la rédemption. Création dans les, au verset 3, et puis dès le verset 4, la vérité concernant la rédemption. Parce qu'il y a eu chute après la création d'Adam. Alors, verset 4. C'est par la foi qu'Abel, qui est donc le fils d'Adam, offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Abel a donc été sauvé par la foi. C'est la foi en la parole de Dieu, la foi en ce qu'il a appris certainement de ses parents, qui l'ont conduit à offrir ce sacrifice à Dieu qui était les victimes de son troupeau. Il s'est confié dans un sacrifice pour son salut. Il s'est confié en cette victime et il l'a offert à son Dieu. Donc, nous avons là une des vérités fondamentales de l'Écriture. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Tandis que Caïn, il a pensé, lui, qu'il pouvait faire son salut par ses œuvres. Et ce qu'il a voulu présenter à Dieu, c'est le fruit de son travail, de son labeur. Et c'est un sacrifice non sanglant. Tandis que Abel a compris qu'il ne pouvait offrir qu'un sacrifice sanglant. Et nous avons fait allusion aux vêtements de peau que Dieu avait confectionné pour Adam et Ève en les chassant du paradis et qui ont nécessité certainement que le sang coule, le sang des victimes. Adam et Ève ont été couverts par la peau des victimes. Ainsi nous aussi, pour paraître devant Dieu, nous sommes couverts par le Seigneur Jésus qui a été la victime propitiatoire pour nos péchés. Donc, en Abel, nous avons le sacrifice de la foi. La foi au sacrifice expiatoire. Et quand il est dit que, quoique mort, il parle encore, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sacrifice d'Abel est un type du sacrifice du Christ qui nous parle encore chaque jour. Il n'y a pas de salut en dehors du sacrifice du Christ. Si vous pensez que vous pouvez vous sauver par vos œuvres ou par vos mérites, par votre travail, comme Caïn le croyait, sachez que tous ces efforts-là ne plaisent pas à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance. Vous pouvez vous demander, mais pourquoi enfin cela? Si ça me plaît de faire ainsi, eh bien, faites ce que vous voulez. Mais sachez que cela ne plaît pas au Seigneur. Je préfère l'obéissance, dit le Seigneur, que toutes vos bonnes œuvres, que vous m'obéissiez à moi. C'est la soumission aux pensées de Dieu. Alors, ensuite, nous avons Enoch. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Après le sacrifice de la foi, il y a la marche de la foi. Quand vous avez l'assurance d'être sauvé par le sacrifice du Christ, qu'est-ce qui va suivre cette merveilleuse nouvelle? Une marche dans la présence du Seigneur. Une marche dans la séparation du monde. Enoch vivait avant le déluge. Et nous avons une description de ce qui se passait avant le déluge. La violence et la corruption étaient sur la terre. Le mal avait progressé d'une façon inouïe, de telle sorte que Dieu avait décidé d'anéantir la terre, d'anéantir les gens qui y vivaient et qui s'étaient complètement corrompus. Mais au sein de cette génération corrompue, il y avait un Enoch qui marchait avec Dieu. Il a marché 300 ans, est-il dit, avec Dieu, et puis il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ça, c'est la marche de la foi, qui a comme aboutissement l'enlèvement avant le déluge. Et cela, prophétiquement, Enoch devient un type de l'Église qui sera enlevée avant la grande tribulation. Si nous marchons avec le Seigneur, eh bien, comme Enoch, je pense que le Seigneur a dû lui dire à un moment donné, tu es tellement près de ma maison et si loin de ta maison terrestre, tu n'as pas à y retourner. Entre avec moi. Et plus nous marcherons avec le Seigneur, plus nous l'attendrons, eh bien, plus nous serons proches de son cœur et quand subitement il viendra. Sondez les Écritures, méditez sur Enoch qui a été enlevé avant le déluge et qui n'a pas passé par la mort, qui est entré dans le ciel sans passer par la mort. Passons plus loin. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, maintenant voilà un troisième témoin. On a vu Abel, le sacrifice de la foi. On a vu ensuite Enoch, la marche de la foi, et puis maintenant on trouve Noé, en qui nous verrons l'œuvre de la foi. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Vous savez que Noé a été averti divinement. Dieu lui a parlé. Et ce qu'il a sauvé, c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est sa foi. Il a cru ce que Dieu lui disait. Mais s'il avait eu simplement cette foi, croire ce que Dieu lui dit, et s'il n'avait rien fait, qu'est-ce qui lui serait arrivé? Il serait mort lui aussi. Ce n'est donc pas une foi intellectuelle. C'est une foi qui est une obéissance. Noé a obéi à l'ordre du Seigneur qui lui demandait de construire une arche. Donc la foi véritable, elle produit une œuvre. Mais une œuvre qui est une œuvre de foi. Car construire une arche en terre sèche, c'était de la folie apparemment. Et alors Noé, il est dit que pendant 120 ans, il fut prédicateur de justice. Et si le monde de son temps a été condamné, c'est parce qu'on n'a pas cru la prédication de Noé. Et quand les animaux, eux, sont entrés dans l'arche avec les fils de Noé et leurs femmes, et que la porte fut fermée, eh bien, avant que le déluge vienne, on a bien dû rire autour de l'arche de Noé en se demandant ce qu'il pouvait bien faire dans cet immense coffre. Mais quand la pluie est venue, quand pour la première fois on s'est rendu compte que le vieux Noé n'était pas si fou que cela, alors certainement on a dû frapper à la porte de l'arche. Noé, Noé, ouvre-nous, tu nous connais bien, on était tes voisins. Et Noé voudrait bien ouvrir, mais qui a fermé la porte de l'arche? C'est Dieu, et il ne peut pas ouvrir. Alors, mes amis, vous-même aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans l'arche ou hors de l'arche? Est-ce que vous avez cru au Seigneur Jésus? Est-ce que vous êtes entré ou bien est-ce que vous êtes dehors? Moi, je ne peux pas répondre pour vous. Mais n'attendez pas que le déluge vienne, parce qu'un jour la porte sera fermée. Entrez par la porte étroite pendant qu'elle est ouverte. Et celui qui croit aujourd'hui, eh bien, il peut dire, j'y suis entré. Et il est à l'intérieur. Il est en sécurité. Noé est une image, alors, du peuple d'Israël qui lui passera par la tribulation, mais il est une image de ce résidu qui sera sauvé au travers de la tribulation. Une multitude périront, martyrs, mais il y a un résidu, un reste, qui sera sauvé par la protection de Dieu au travers de la tribulation, comme Noé a été sauvé au travers du déluge. Comprenez-vous? Voilà les grandes vérités que nous avons ici. Et le monde fut condamné parce que Noé avait prêché et que ses concitoyens n'ont pas cru. C'est eux-mêmes qui se sont condamnés. Mais l'arche était aussi pour eux, s'ils l'avaient voulu. Vous n'avez pas voulu. Et c'est cela qui a fait pleurer le Seigneur. Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sous ses enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais il dit, et vous n'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu, c'est pas vous n'avez pas pu. Si vous êtes perdu, c'est que vous l'aurez voulu. Vous n'avez pas voulu de sa grâce, vous n'avez pas voulu de son salut. Que celui qui veut, dit l'Esprit Saint, prenne gratuitement de l'eau de la vie. Dites-lui, oui, je veux, Seigneur. C'est ce qu'il attend de vous. Et si vous lui avez dit oui, si vous avez dit votre oui, comme Marie, la mère bénie de notre Seigneur, vous êtes à lui, vous lui appartenez, et nul ne vous ravira de sa main. Mais souvenez-vous que la foi véritable, elle se manifeste par les œuvres. De sorte qu'entre Paul et Jacques, il n'y a pas du tout de conflit. Paul nous parle de cette foi qui sauve et qu'aux yeux de Dieu, Dieu qui connaît l'authenticité de notre foi n'a pas besoin de voir nos œuvres pour savoir que notre foi est réelle. Tandis que les hommes, eux, qui ne voient pas le fond de notre cœur, pour croire, ils doivent voir. Ils doivent voir. C'est pour ça que Jacques, insistant sur les œuvres, montre-moi tes œuvres et je croirai ta foi. Mais il n'y a pas de conflit. La foi qui sauve, c'est une foi qui produit des œuvres. Les œuvres qui sauvent, ce sont des œuvres qui sont produites par la foi. Alors, il y a concordance parfaite. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Vous voyez que la foi est une obéissance. Est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, est-il parti sans savoir où il allait. Marcher par la foi, c'est pas marcher par la vue. Mais on a entendu la parole. Mais vous voyez, la foi, ce n'est pas une aventure. Quand on vous parle de l'aventure de la foi, moi je n'y crois pas du tout. La foi n'est pas une aventure. Abraham n'est pas parti à l'aventure. Qu'est-ce qu'il avait entendu? La parole du Seigneur, qui lui dit « pars ». Et quand on a entendu la parole du Seigneur, ça nous suffit. Il n'a pas besoin de nous donner tous les détails de notre itinéraire, mais il dit « pars ». Alors on part, et il sera lui-même au rendez-vous chaque fois que nous en aurons le besoin pour nous communiquer l'étape suivante. Nous marchons d'étape par étape. C'est extrêmement enrichissant d'étudier les étapes de la marche de la foi d'Abraham. Et à chaque étape, vous voyez qu'Abraham élève un autel à l'Éternel dans la joie et la reconnaissance parce qu'il était là. Et il n'était pas en retard. le Seigneur l'attendait pour lui dire « va maintenant plus loin ». C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dieu avait promis à Abraham que sa postérité aurait un pays, mais que ce pays, sa postérité, ne pourrait l'occuper qu'après 400 ans, parce qu'il donnait encore ce Dieu d'amour et de patience, 400 ans aux Amoréens, aux Cananéens, pour se repentir de leurs fautes. Mais là aussi, comme il avait donné 120 ans au temps de Noé pour que le monde se repente, maintenant il donne encore 400 ans aux Cananéens et il dit à Abraham, tu ne pourras pas prendre possession du pays parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à son comble, je leur donne encore dans ma patience un temps. Mais après ce temps-là, certainement mes promesses s'accompliront. Et il a fallu qu'Israël, les descendants d'Abraham, aillent en Égypte en attendant que ces 400 ans soient arrivés. Mais quand les 400 ans sont échus, le Seigneur suscite un Moïse pour accomplir sa promesse. Alors, en attendant, Abraham a dû vivre dans la terre de la promesse, mais comme un étranger. Et alors, quelle possession est-ce qu'il a eu à Abraham? Pourtant, le pays lui était donné. Il pouvait dire, je suis dans le pays qui me reviendra, qui m'a été promis. Mais dans ce pays-là, qu'avait-il lorsqu'il était vivant? Qu'a-t-il eu comme possession? Un cimetière pour y déposer le corps de Sarah, c'est tout ce qu'il avait. Le seul terrain, le petit territoire qu'il a eu, c'est une tombe, la caverne de Macpéla à Hébron, où il ensevelit sa femme Sarah. Voilà tout ce qu'il avait. Qu'est-ce que nous avons dans le monde? Quelle place pouvons-nous avoir dans le monde? Une place au cimetière. Hein? Ça, c'est ça au fond. Mais autrement, nous n'avons rien, vous n'allez rien emporter. N'allez pas emporter vos demeures. Alors, essayons de comprendre la parole de Dieu. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de Dieu, de celui qui avait fait la promesse. Pourtant, elle avait commencé par douter et par rire. Mais sa foi a triomphé. Alors Sarah nous montre le triomphe, au fond, de la foi sur nos doutes. Et dans sa bonté, eh bien, Dieu accomplit ses promesses, parce qu'il lui avait dit, Sarah, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voilà la vérité fondamentale. Toutes choses sont possibles à Dieu. Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Bien, vous avez maintenant l'histoire de Sarah pour vous rappeler cette vérité. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps, de qui est-il question? D'Abraham qui avait 100 ans, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'ils sont tous morts, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues. Alors, vous voyez ce que c'est que la foi? La foi voit les choses qui nous ont été promises. Et elle s'empare de ces choses, et si même je meurs avant d'avoir la possession de ces choses, je sais que je les aurai un jour. Parce que la mort n'est pas la fin de tout. Je ressusciterai et à son heure, j'obtiendrai ce qui avait été promis. Ce n'est pas nécessaire que je l'ai maintenant sur la terre. Ils les ont vus, ils les ont salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Ce monde d'aujourd'hui, occupé par son prince, ce n'est pas pour nous. Nous régnerons un jour sur ce monde, mais quand le Seigneur y régnera. Ceux qui parlaient ainsi montraient qu'ils cherchaient une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Et Abraham aurait pu retourner où ? À Ur de Chaldée. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Alors, vous voyez comme on est dans l'Épître aux Hébreux. On est vraiment dans le cadre de l'Épître aux Hébreux. Est-ce que ce sont les choses terrestres qui comptent ou ce sont les choses célestes ? Ce sont les choses célestes. Alors, nous désirons aussi une meilleure patrie, une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu et il leur a préparé une cité. Et quelle est cette cité ? C'est la cité céleste, où nous retrouverons tous les anciens, Abraham, Isaac et Jacob et tous les autres. Car Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, et pour lui, tous vivent. Jésus disait que Dieu était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui n'était pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, et que pour lui, tous vivaient. Et il disait aussi, Jésus, que Abraham avait vu son jour et qu'il s'était réjoui. Donc Abraham vivait dans l'attente de Jésus. Et il a eu cette certitude que même s'il ne le voyait pas, il viendrait quand même. Et qu'il a vu un vieillard, c'était pas Abraham, c'était Siméon. Siméon, lui, il a dit, mes yeux ont vu ton salut. Mais Abraham, lui, il a vu le salut par la foi. Siméon l'a vu de ses yeux quand il est venu. C'est merveilleux. Mais Abraham a cru sans voir. Bienheureux sont ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est Jésus ressuscité qui dit cela à Thomas. Parce que tu as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Eh bien, ça, c'est pour nous. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Alors, vous vous rendez compte de l'épreuve d'Abraham. Abraham avait reçu, à l'âge de 75 ans, quand il est entré en Canaan, la promesse qu'il aurait un fils. Il a cru. Mais voilà que ça a tardé. Et il a attendu 25 ans. À l'âge de 100 ans, voilà que la promesse se réalise. Il a un fils. Alors ils sont dans la joie avec la chère Sarah. Ils ont un fils. Et toutes les promesses reposent sur ce fils. Il ne faut pas qu'il lui arrive malheur à ce fils. Hein. Et voilà que vous, vous aimeriez bien que Dieu vous parle. Hein. Est-ce qu'il n'y en a pas un ici qui voudrait que Dieu lui parle cette nuit, qu'il l'appelle, ou comme il serait honoré. Vous aimeriez tellement cela qu'il vous appelle par votre nom. Tout à coup, dans la nuit, vous entendez votre nom, comme Samuel. Samuel, Samuel. Abraham, Abraham. Robert, Robert, Jean, Jean, Hélène, Hélène. Hein? Moi, je ne sais pas tous vos noms. Christiane, Christiane. Johan, Johan. Voilà, dans la nuit. Vous vous réveillez. C'est pas votre père, c'est pas un camarade, c'est un ami, c'est le Seigneur. Vous appelez. Oh, mais c'est merveilleux. Y a-t-il longtemps que vous voulez l'entendre? Elle est là. Tu voulais que je t'appelle? J'ai quelque chose à te dire. Abraham, Abraham, prends ton fils. Mon fils? Ah, Ismaël, je pense. Non. Ton unique. Isaac. Puis va, offre-leur en sacrifice sur la montagne que je te dirai. C'est pas possible. Offrir mon fils en sacrifice? Moi-même, le faire mourir, moi qui veillais sur lui, qui le protégeais de toute manière, et c'est maintenant moi qui dois l'offrir sur l'autel du sacrifice? Mais c'est pas possible, oh Dieu! Dis rien. Abraham obéit. Vous voulez que Dieu vous parle? Que va-t-il vous demander? Vous le connaissez, votre Isaac? Moi, je ne le connais pas. Je connais le mien, peut-être. Ce que j'ai dû mettre sur l'autel. Quel est ton Isaac? Ce à quoi tu tiens le plus? Et c'est cela que le Seigneur te demande. Mets-le sur l'autel. Pas possible. Oh non, Seigneur, tu peux demander n'importe quoi, mais pas ça. Ah, je te donnerai tout, Seigneur. Je te donnerai tout, 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 tout. Allez, tout, tout, ça se donne, oui, bien sûr. Mais maintenant, c'est votre Isaac. Vous avez compris ce que c'est votre Isaac? Demandez à Dieu, montre-moi ce que c'est mon Isaac. Qui dans mon cœur prend tant de place. C'est Isaac que je préfère encore à toi. Abraham obéit. Moi, je suis bouleversé devant cela. Il n'a pas pu comprendre. Et il a marché 3 jours, depuis Beersheba jusqu'à Jérusalem, avec Isaac à ses côtés, qui marchait avec lui, puis qui lui disait, « Papa, il y a le bois pour le sacrifice, il y a le couteau, il y a le feu, mais l'agneau, où est-il pour l'offrir en sacrifice? Où est l'agneau ?» Puis le père disait, « Ne t'inquiète pas, le Seigneur y pourvoira. » Le Seigneur pourvoira pour l'agneau. Et ils marchaient les deux ensemble. C'est quelque chose. Le Père et le Fils. Ils marchaient les deux ensemble. Et Isaac portait sur son dos le bois du sacrifice. C'est une image de qui? Et le Père? De Dieu. Le Père et le Fils dans cette œuvre qui marchent les deux ensemble vers quelle colline? Vers Golgotha. Vers Morija, mais c'est Jérusalem, ils marchaient les deux ensemble. Eh bien, on est en plein évangile dans ce chapitre 22 de la Genèse. Ils marchaient les deux ensemble. Et alors, Abraham se disait, mais comment est-ce que cela se passera? Mais si Isaac meurt, mais les promesses de Dieu, comment s'accompliront-elles? Puisque je dois avoir une postérité, puisqu'il doit naître, il doit naître de ma postérité, d'autres enfants, un peuple aussi nombreux que le sable de la mer. Comment est-ce que ça se fera? Je ne peux pas avoir un autre Isaac. Alors, dans son épreuve, elle était si profonde, vous savez à quoi il est arrivé? À l'idée de la résurrection. Et c'est là la première fois que vous trouvez cette vérité de la résurrection. Il était tellement sûr que Dieu ne pouvait pas le laisser, qu'il s'est dit, même si je dois l'offrir en sacrifice, il me le redonnera par une sorte de résurrection. Voilà ce qui arrive quand on accepte d'être éprouvé par le Seigneur. Il nous amène à une connaissance beaucoup plus profonde de ses merveilles. C'est ce que vous avez au verset 18. C'est par la foi donc qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu des promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Quand Isaac a été lié sur le bois de l'autel et que le père a élevé le couteau sur lui, la main de Dieu l'a retenu, Abraham. Abraham, je connais maintenant que tu ne m'as pas même refusé ton fils. Et le Seigneur y avait pourvu. Dans un buisson un peu plus loin, il y avait l'agneau qui était retenu par les cornes. Mais pour le Seigneur, quand cela est arrivé, il n'y a pas eu d'agneau qui se soit substitué à lui. Il a fallu que lui aille jusqu'à la consommation du sacrifice. Mais il a été ressuscité. Voilà les vérités fondamentales que ces vies, la vie de ces hommes nous apprennent. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Alors ça voulait dire quoi? Puisqu'il parle, ce vieil Isaac devenu aveugle, bénissant Jacob et donnant aussi sa bénédiction à Ésaü, il leur parle des choses à venir, ça veut dire qu'il croit que cela arrivera. Il croit que ces choses à venir, ces choses qui ne sont pas encore des réalités, se réaliseront pourtant. Donc Isaac, lui aussi, est un homme de foi. Nous devons croire aux prophéties. Ces choses s'accompliront. Alors c'est la foi en Isaac, la foi qui bénit les enfants. Comme on a vu le triomphe de la foi en Sarah, eh bien, on peut voir la foi qui cherche une patrie dans ses patriarches, la foi qui compte sur la puissance de Dieu en Abraham, qui croit à une possibilité de résurrection. En Isaac, vraiment, nous pouvons voir cette foi dans les promesses, et en Jacob, lui aussi, ce Jacob qui a eu une vie de haut et de bas, constante, mais pourtant arrivé à la fin de sa vie, verset 21, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun de ses fils et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Vous avez cela dans le chapitre 49 de la Genèse. Il a réuni tous ses enfants autour de son lit. Il leur a parlé à chacun et il leur a donné sa bénédiction et il leur a annoncé les événements et qui viendraient. Jacob aussi croyait à l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous nous arrêterons là et nous allons maintenant chanter quelques cantiques. Et puis après, je vous donnerai un court message.